Voilà, on est heureux d'accueillir donc son époux également, qui s'appelle bien David. Moi, je dis ça parce que je présente, parce que je me suis aperçu trop tard que j'ai fait des flyers au nom de Daniel Rivière. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je lui dis ça avant. C'est bien David qui est avec nous. Le Seigneur le bénisse.
Merci. Merci au pasteur, merci au conseil de l'église de m'accueillir, de nous inviter. Et merci aussi à vous de votre accueil chaleureux. Croyons que le Seigneur va encore vous bénir ce matin. Amen. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Oui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un cadeau? Oui aussi. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous, il vous tend un cadeau et vous lui dites non merci. Ça vous est déjà arrivé? Il arrive à quelqu'un? Ça paraît un petit peu absurde de refuser un cadeau. C'est toujours plaisant de recevoir quelque chose. Non? Mais peut-être qu'il y a des raisons valables de refuser un cadeau. J'ai fait quelques recherches pour voir quelles pourraient être les raisons du refus d'un cadeau. Alors, parfois on refuse le cadeau parce que on pense que ça pourrait être un cadeau empoisonné. Est-ce que ce cadeau n'est pas empoisonné? Parfois on peut refuser un cadeau parce que on pense que ça ne nous est pas utile. Non, j'ai pas besoin de ça. Non, je ne vois pas à quoi ça pourrait nous servir. Parfois, on peut recevoir, peut-être qu'on peut refuser un cadeau parce qu'on pense ne pas en avoir besoin. Moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, donc je n'ai même pas besoin de ce cadeau. Parfois, on peut refuser un cadeau parce qu'on pense ne pas le mériter. On ne se sent pas digne de ce cadeau. Peut-être parfois parce que on manque d'estime de soi et on ne pense pas mériter tel ou tel cadeau. Parfois, on peut refuser un cadeau parce qu'il est emballé, donc on ne sait pas c'est quoi. Et par peur d'être déçu, on préfère le refuser pour ne pas blesser la personne parce qu'on va offrir ce cadeau et si on réagit mal, on est déçu, on a peut blesser la personne, elle pourrait voir notre déception en découvrant le cadeau. Parfois, peut-être qu'on refuse un cadeau du fait de la relation qu'on a à la personne. C'est une relation qui est un peu malsaine. Peut-être cette personne nous offre un cadeau, mais derrière il y a un objet de manipulation. Peut-être pour acheter notre silence, peut-être pour acheter notre pardon, ou je ne sais quoi d'autre. Donc il y a une relation malsaine qui est là et on préfère refuser le cadeau. Ou peut-être encore qu'on refuse le cadeau parce qu'on a peur d'être redevable. Je pense qu'il n'y a personne de radin ici. Hein. Si je refuse le cadeau, si j'accepte le cadeau, ça veut dire que je vais devoir aussi dans l'avenir acheter un cadeau pour cette personne. Ou peut-être parce qu'on sait, on découvre le cadeau, on voit que c'est un cadeau de valeur, le prix est excessif. Et on ne pense pas être à la hauteur pour offrir de nouveau un cadeau d'une valeur équivalente. Donc on préfère ne pas accepter le cadeau parce qu'on pense que si accepter le cadeau, c'est aussi accepter une dette envers la personne. Autant de raisons, peut-être d'autres, mais je vais m'arrêter sur celle-ci ce matin. Donc autant de raisons qui pourraient être possibles de refuser un cadeau. Mais de quel cadeau on pourrait parler ce matin? Donc avant de revoir les raisons du refus d'un cadeau, j'aimerais qu'on parle du cadeau en question. Alors je précise, je ne suis pas à l'initiative du cadeau. Je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas fabriqué et je ne l'ai pas acheté. Ok? Mais je l'ai reçu moi-même et je l'ai accepté. J'ai reçu un cadeau, je suis invité maintenant à le donner à mon tour, à le partager à mon tour. Et à le partager même au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Je suis invité à partager, à donner aussi ce cadeau, non pas parce que je prêche ce matin, non pas parce que je suis en formation ministérielle avec mon épouse, mais tout simplement parce que je suis le fils du roi des rois. Sans prétention, c'est une simple vérité. Je suis le fils du roi des rois. Je suis sauvé par grâce, et uniquement par grâce. Ce ne sont pas des œuvres passées, présentes ou futures qui font que je suis sauvé. Mais c'est uniquement par la grâce de Dieu que j'ai été racheté au prix du sang versé de son fils Jésus. Amen. Je suis sauvé par grâce, par le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas un événement historique, simplement. Mais cet événement a changé le monde. À tel point que même le calendrier se base sur cette date-là. Amen. Personne n'a pu le faire avant Jésus. Et personne ne pourra le faire après lui. Parce que Jésus a été le seul à n'avoir commis aucune faute devant Dieu durant plus de 30 ans de vie terrestre. Il n'a commis aucune faute ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Le sacrifice de Jésus a été agréé par Dieu le Père. Amen. Afin que celui qui croira ne soit plus sous le poids de la condamnation qui attend celui qui a désobéi à Dieu, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Qu'il reçoive la vie éternelle. Alors ça peut-être que tu pourrais dire, mais comment ça se fait que... Alors je suis un homme, une femme libre. On peut dire de moi que j'ai désobéi ou pas à Dieu. Qui peut dire que j'ai désobéi ou pas à Dieu? C'est simple. Dieu le premier et le dernier. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Dieu a voulu que tu existes. Et Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Amen. Et la Bible dit que tout homme a péché. Nous sommes sous le poids d'une condamnation, que ce soit à cause d'une pensée, à cause d'un acte, d'une action, d'une réaction ou d'une parole, même involontaire. Mais si une parole est en désaccord avec le cœur de Dieu, tu es séparé de Dieu. C'est une loi spirituelle et c'est une loi universelle. Tu es séparé de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils afin d'être réconcilié. D'être réconcilié. Et que cette désobéissance, même involontaire, ne te condamne plus. Mais que tu puisses de nouveau être accepté et avoir une relation avec ton Créateur. Amen. C'est cela le cadeau que je voudrais vous partager ce matin et vous donner, vous communiquer. À peut-être quelqu'un ce matin qui n'a jamais accepté ce cadeau, ou toi qui l'a peut-être déjà accepté, mais que tu puisses peut-être, je prie pour que tu puisses profiter plus de ce cadeau. Profiter plus de l'héritage que tu as en ayant accepté Jésus. Ce cadeau, donc, c'est la vie éternelle qu'il est possible d'obtenir uniquement de la main de Jésus. Uniquement de la main de Jésus, de personne d'autre, de rien d'autre que de la main de Jésus. Quand je te parle que je suis venu te présenter ce cadeau, c'est qu'en le faisant, c'est comme si la main de Jésus se tendait vers toi et te faisait comprendre, saisis ce cadeau et saisis. Que veut dire avoir la vie éternelle en Jésus-Christ? Amen. Alors ne cherche pas, en préparant le message, j'ai eu à cœur de relever cet élément. ne cherche pas à voir pour croire, mais crois et tu verras. Ne cherche pas à voir pour croire, mais crois et tu verras. Et Jésus même va le dire dans Jean chapitre 11, verset 40, je le lis pour vous. C'est Jésus qui s'adresse à Marthe. Le frère de Marthe est décédé, ça fait 4 jours. Jésus s'approche de Marthe, qui est une amie très proche aussi, comme Lazare était un ami de Jésus. Et Marthe va douter de ce que Jésus pourrait faire encore dans cette situation, puisque son frère est mort. Mort, décédé. Capoc. Ok? Et certainement, elle n'avait jamais vu quelqu'un ressuscité. Mais elle n'avait jamais vu Jésus ressusciter quelqu'un. Et Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a quelque chose que je n'avais pas relevé, c'est que Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit, c'est qu'il avait déjà dit auparavant à Marthe, au travers d'un échange que la Bible n'a pas relevé, que la Bible ne raconte pas. Ne t'ai-je pas dit, donc dans le passé, je t'ai déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce que j'ai à cœur de dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta situation ne peut pas être pire que la mort de quelqu'un. Ta situation ne peut pas être plus morte que la mort de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Marthe ne savait pas, pensait que Jésus devait agir d'une certaine manière. Et peut-être que comme moi, parfois vous pensez que Jésus va agir d'une certaine manière. Et peut-être même que comme je l'ai déjà fait, Dieu agit de telle manière. Non, qu'on le laisse faire. Qu'on le laisse faire à sa manière, même si sa manière peut nous déranger, peut nous décevoir de prime abord. Mais le plus important, c'est que je crois afin que je voie la gloire de Dieu. Même si je ne vois pas, l'important c'est que je crois pour voir la gloire de Dieu. L'important c'est que tu crois pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Peut-être même dans une mesure supplémentaire, une mesure plus importante qu'hier, comme Marthe l'a expérimenté. Marthe n'avait jamais vu Jésus ressusciter un mort. Et Jésus va ressusciter son frère. Amen. Amen. Parfois c'est une histoire comme ça qu'on répète, on ne réalise pas la grandeur de l'action de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus. Jésus est capable de ressusciter un mort. Donc Jésus peut ressusciter quelle que soit une chose, le problème dans ta vie, quelle que soit la chose qui peut être morte dans ta vie. Tu vois que c'en est fini, c'en est pas fini. Tant que tu crois, c'en est pas fini. C'en est fini quand tu arrêtes de croire. Vous savez, même les gens du monde, les entrepreneurs dans ce monde, disent que l'échec n'existe pas. L'échec existe quand tu t'arrêtes. L'échec existe quand tu abandonnes. Sinon, tant que tu poursuis, tant que tu continues, tant que tu n'arrêtes pas les efforts, quelque chose va se passer. Il y aura ou non une réussite. Avec Dieu, c'est d'autant plus vrai. Tant que tu crois, l'impossible est possible. Amen. Amen. Donc, je te propose ce cadeau que j'ai personnellement accepté et je te le partage gratuitement. La vie éternelle en Jésus. Si vous permettez, on va revoir un petit peu, on reprend un petit peu les raisons que j'ai citées du refus d'un cadeau et est-ce que ces raisons sont valables. Premièrement, j'ai dit que parfois, on peut refuser si on pense que le cadeau est empoisonné. La vie éternelle en Jésus, c'est quelque chose d'excellent pour toi et moi. De plus excellent. Il n'y a rien de meilleur que la vie éternelle en Jésus. Rien de meilleur. Et je pense parfois qu'on a besoin de te le dire. Pourquoi ? Parce que parfois, on pense qu'on a besoin de telle ou telle chose dans le monde et je suis humain, ça m'arrive aussi. Seigneur, je prie pour que je puisse avoir ça, 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 ça. Et parfois, on se connaisse tellement sur ce qu'on n'a pas qu'on oublie de profiter de la vie qu'on a en Jésus. Dieu est bon et il veut ton bien. Et il sait exactement ce dont toi tu as besoin, mieux que toi-même, mieux que moi-même. Si Dieu ne voulait pas ton bien, écoute bien, si Dieu ne voulait pas ton bien, il ne serait pas allé jusqu'à offrir son propre fils. Il a choisi, il a décidé d'offrir son propre fils, mourir à la croix pour toi et moi. Parce que Dieu a des projets pour toi. Et il veut que tu entres dans ces projets. Et la première chose qu'il devait faire, c'est offrir son fils, afin que l'œuvre soit parfaite, afin que tout soit accompli. Et en passant par Jésus, tu peux entrer dans ces projets. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans beaucoup de magasins, on nous rappelle déjà qu'on approche la fin d'octobre. Cette malheureuse fête d'Halloween. Les dégoûts sont vraiment impressionnants, ils sont animés, je ne sais pas si vous en avez vu. C'est horrible. Et les enfants, et je vois des enfants être contents et sourire devant des squelettes, devant des personnes enchaînées, dans des prisons. J'ai vu un être animé dans une prison, un squelette animé dans une prison. Mais c'est horrible. C'est horrible. En plus, c'est vendu 500 euros. Et bien, non. À chaque fois que je passe dans ces rayons, je prie pour que la lumière de Christ brille dans ces ténèbres. Amen. Ne disons pas seulement c'est pas bon, non, prions aussi. Prions aussi pour que les gens ne soient pas, ne se laissent pas être influencés, être dominés par cette pub pour les ténèbres. Amen. Le monde te vend de l'horreur. Le monde souhaite ton malheur de manière visible ou très subtile. Alors que Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets de paix pour toi. Comme il en avait pour son peuple à cette époque où Jésus, où Dieu va parler à travers la bouche de Jérémie. Amen. Dieu a des projets de paix pour toi. Parfois on croit que lorsque Dieu dit qu'il y a des projets de paix, ça veut dire que rien ne nous arrivera de mal, aucune difficulté. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que, premièrement, qu'importe les circonstances, les difficultés par lesquelles tu vas passer, la paix de Dieu peut t'accompagner. J'ai pu expérimenter ça par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a aidé à m'attacher à lui dans des périodes difficiles. Et Dieu n'a rien changé de ma situation. Rien. Mais ce qu'il a changé, c'est mon cœur. Et je ne vivais plus les choses de la même manière. Je ne subissais plus les circonstances comme auparavant. Parce que la paix de Dieu m'accompagnait. Et tu traverses. Tu traverses. Dieu peut te calmer la tempête, mais il peut te dire à traverser la tempête dans le calme et la tranquillité. Amen. Amen. Ce cadeau, on peut le refuser parce qu'on peut dire qu'on ne voit pas l'utilité. Est-ce à quoi ça va me servir? Bien sûr que la vie éternelle en Jésus t'est utile. Elle t'est même nécessaire. Car le salaire du péché, comme on a dit tout à l'heure, en désobéissant, on pêche, on est séparé de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Alors que l'acceptation du salut en Jésus-Christ, c'est la vie. Sans l'acceptation du salut en Jésus-Christ, ton âme est morte. Tu peux avoir une vie impeccable, mais à l'intérieur de toi, ton âme est morte. Le pire, c'est de ne voir ou de ressentir aucun symptôme de cette mort. Et parfois, l'ennemi de ton âme, il va te donner tout ce dont tu as besoin, afin que, comme un magasin, un médicament palliatif, d'accord, un effiralgo que vous prenez pour votre mal de tête, il n'enlève pas le mal de tête, hein, il n'enlève pas le problème qui produit ce mal de tête. Il veut juste que tu ne sentes plus la douleur. Et parfois, l'ennemi de ton âme, c'est ce qu'il fait. Il te donne tout ce dont tu as besoin, afin que tu ne ressentes pas les symptômes
de ton âme qui est morte ou qui est malade. Mais si tu es séparé de Dieu, si tu n'acceptes pas Jésus et si tu ne suis pas Jésus, ton âme est malade, voire morte. Et elle finira en enfer. Alors que la vie éternelle en Jésus t'ouvre les portes du ciel, où siègent Dieu le Père et son Fils à sa droite. Amen. Peut-être que tu veux refuser, tu refuses ce cadeau parce que tu penses que tu n'en as pas besoin. Comme je viens de te le dire, tu penses peut-être ne pas avoir besoin de ce cadeau parce que tu es satisfait de ta vie. Tu es en bonne santé. Pour toi, tu as suffisamment de revenus pour ton niveau de vie. Tu ne cherches pas plus. Tu es satisfait, tu es content. Tu as tout ce que tu penses avoir besoin. Tout va pour le mieux et donc tu te dis, pourquoi aurais-je besoin de Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter de plus? Pourquoi? Si c'est ton cas, tout d'abord, je suis content pour toi. Si tout va bien, je suis content pour toi. Mais, la Bible dit dans Marc chapitre 8, verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je crois que ce verset ne concerne pas uniquement les personnes dites haut placées dans la société, qui ont des cartes bancaires no limites, qui ont accès à toute espèce de privilèges, mais tout simplement, comme je dis, à toutes les personnes à qui tout réussit, peu importe à quelle échelle. À toi qui peut-être te estimes satisfait de ta vie, de ce que tu as. Tu es satisfait de ton épouse, tu es satisfait de tes enfants, tu es satisfait de ta maison, tu es satisfait de tes revenus, tu es satisfait de ta santé, tu es satisfait de tes loisirs, et tout semble aller pour le mieux. Ah, ça ne veut pas dire que forcément t'es loin de Dieu, hein. Il y a des moments où tout va bien aussi, gloire à Dieu. Mais veillons quand même. Ou peut-être même que tu fais partie d'une classe sociale élevée. Alors ce verset te concerne d'autant plus. Dieu est à l'origine de ton âme. Si tu es séparé de lui, ton âme mourra. Alors il faut accepter la vie éternelle en Jésus. Il ne faut pas se satisfaire de notre vie si nous ne sommes pas avec Jésus. Je ne peux pas me satisfaire de ma vie si je n'ai pas accepté Jésus. Je ne peux pas me satisfaire de ma vie si chaque matin, je n'accepte pas de nouveau Jésus. Si je ne délaisse pas, si je ne suis pas prêt à abandonner ma vie, si je ne suis pas prêt à crucifier ma chair pour accepter Jésus, pour suivre Jésus. Je veux la vie que Jésus a offerte. Rien d'autre. Et chaque matin, il faut que je refasse ce choix. Ne serait-ce que pour voir si je suis toujours dans la bonne voie. Amen. Peut-être que on peut refuser donc le cadeau si on estime qu'on ne mérite pas ce cadeau. Alors peut-être que tu as un manque d'estime de toi-même. Peut-être que dans ton enfance, dans ton chemin de vie jusqu'à aujourd'hui, tu as été ou tu es blessé. On t'a blessé, tu as commis des fautes et tu as une estime de toi qui est assez faible. Tu culpabilises, tu as certains regrets qui te rongent plus ou moins. Et tu dis que tu n'es pas digne d'accepter Jésus. Tu n'es pas digne d'accepter le cadeau de Jésus. Tu n'es pas digne de recevoir la vie en Jésus. Ne reste pas dans cet état. Ne reste pas dans cet état. Ne reste pas dans cet état. Demande pardon à Dieu. Et parfois, ce ne sera pas suffisant. Je ne dis pas que le pardon de Dieu n'est pas suffisant. Mais toi, tu dois peut-être demander pardon à Dieu. Et parfois, les plus loin, de peut-être demander pardon à quelqu'un. Tu dois peut-être te pardonner. Ça arrive aussi. Tu dois peut-être te pardonner. où tu peux accorder le pardon. Accorder le pardon. Le non-pardon, ça me répète souvent parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement lorsqu'on rencontre des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin dans les entretiens pastoraux, ça revient très souvent. Le non-pardon enchaîne, le pardon libère. Et il y a une puissance spirituelle dans le pardon qui est extraordinaire, qui peut guérir quelqu'un, qui peut changer complètement un état mental, psychologique, intérieur. Le pardon. Demander pardon à Dieu. Et même parfois, pardonner Dieu. Dieu n'a rien fait de mal, mais toi, en tant qu'être humain, tu dois pardonner Dieu. Ok Seigneur, ça m'est déjà arrivé de me dire, je ne peux pas accepter cette pensée, je ne peux pas me plaindre devant Dieu. Si je suis un bon enfant de Dieu, je ne peux pas me dire, je ne peux pas faire des reproches à Dieu. C'est vrai, quelque part c'est vrai, mais je vais me répondre à moi-même. Parce que si je refuse de le verbaliser, ça peut être un non-dit entre Dieu et moi. Dieu, c'est un Dieu qui est super grand, super haut, mais c'est un Dieu proche qui veut une relation aussi. Et autant les non-dits dans une relation, épouse, époux, enfant, parent, amical, etc., n'est pas bon, autant les non-dits entre Dieu et toi, ce n'est pas bon. Avoue à Dieu d'avoir une mauvaise pensée envers lui. Ok, Dieu, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi tu as fait comme ça. Je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas agi. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai reçu ça et pas ça. Je n'ai pas compris et je t'en veux. Mais je te demande pardon. Je te pardonne de n'avoir pas agi. C'est ce que j'ai besoin de me dire. Et je te demande pardon de l'avoir pensé. Je te demande pardon de t'en avoir voulu. Le pardon. Le pardon. Jésus, lui, n'a pas attendu que je l'aime pour prendre ta place à la croix. Il m'a aimé. Et il s'est donné. Il m'a aimé et il s'est donné. Il t'a aimé et il s'est donné pour toi aussi. Amen. Je cite ce verset que vous connaissez certainement bien par cœur, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous voudriez répéter quelque chose après moi? Oui? Dites après moi. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si je crois en lui, afin qu'alors que je crois en lui, je ne sais pas si c'est très français, j'ai la vie éternelle en Jésus. Amen. Autrement, peut-être que tu ne refuses, qu'on peut refuser le cadeau de peur d'être déçu. On peut être déçu de ce qu'on a lorsqu'on accepte Jésus. J'ai un ami qui ne connaît pas Jésus, qui m'a, quand j'ai répondu à un appel, j'ai quitté la réunion, je suis allé faire des études bibliques en Israël. Pardon. Parce qu'il m'a vu plus m'engager dans ma voix avec Dieu, mais il m'a dit, mais et à la fin, j'ai moins de liberté. La vie en terre, écoutez bien, la vie éternelle en Jésus n'a rien de comparable à ce que le monde peut m'offrir. Rien de comparable, il n'y a pas de comparaison à faire entre ce que le monde peut m'offrir, entre ce que je peux obtenir sur terre et ce que Jésus a à m'offrir. Ce n'est pas comparable, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est pas sur le, parce que sinon c'est mettre sur le même niveau. C'est impensable de faire ça. Impensable. Quand j'avance dans ma marche avec Dieu, quand je grandis dans la foi, quand je mûris vraiment, hein, pas à moitié, à peu près, quand je mûris vraiment, je me rends toujours plus compte que la vie en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, n'a rien de comparable à ce que le monde peut faire. N'a rien de comparable à ce que j'ai connu. et avec ce que ce à quoi mon cœur s'est attaché et ce que je pensais bon pour moi. Ça n'est pas comparable. Je découvre de plus en plus la différence énorme, profonde qu'il y a en ce que je peux avoir sur terre et ce que Jésus peut me donner et me faire vivre. Donc ne te mets, il ne faut pas s'imaginer une vie meilleure. Si tu t'imagines une vie meilleure, c'est que tu compares ce que tu as et tu penses que ça va être meilleur que ce que tu as. Non. Je pense que c'est un faux raisonnement. Parce que ce n'est pas le but. La vraie définition de la vie ne peut se trouver qu'en Jésus. Si tu veux savoir c'est quoi la vie, ce n'est pas dans ce monde, ce n'est pas dans une philosophie humaine que tu trouveras ça. Mais c'est en Jésus. C'est Jésus qui peut t'expliquer, te montrer, te faire vivre c'est quoi réellement la vie. Amen. La vie en Jésus, écoutez bien, la vie en Jésus est d'abord spirituelle. La vie en Jésus est d'abord spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de naturel. La vie en Jésus est d'abord spirituelle avec un impact dans le naturel, avec un impact dans le monde physique. La vie en Jésus est d'abord spirituelle. À partir de là, il faut mieux connaître Jésus pour mieux comprendre ce qu'est la vie. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Peut-être que la prochaine raison peut être une bonne raison de refuser le cadeau. Si la personne qui t'offre, la relation que tu as avec cette personne-là, est malsaine, peut-être que cette personne veut te manipuler. Le vrai manipulateur, le plus grand des manipulateurs, connu par exemple sous le nom Père des mensonges, est appelé selon la Bible le diable. Écoute bien, n'accepte aucun cadeau de lui. Aucun, zéro compromis, zéro accès, zéro. Et n'oublie pas qu'il peut mettre un emballage très spirituel parfois, un emballage qui ressemble à ce que Dieu a te donné, qui ressemble à quelque chose de bibliquement correct. Ça peut arriver aussi. Donc, ce que tu dois demander, ce que tu dois vérifier, c'est qui me donne le cadeau. Parce que peut-être l'emballage est très beau et laisse présager de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le plus important, c'est de savoir qui te donne le cadeau. Est-ce Jésus ou est-ce l'ennemi de ton âme? Qui te donne le cadeau? Parfois, on se dit je suis dans la volonté de Dieu parce que je suis béni. Pas toute bénédiction vient de Dieu. Pas toute bénédiction vient de Dieu. Il y a des bonnes choses que le diable peut te donner. De bonnes choses humaines. Simplement pour t'éloigner. Simplement pour que ta vision quitte. Simplement pour que ton cœur s'attache à ce qu'il offre. Plutôt qu'à ce que Dieu veut t'offrir, qui est Dieu, qui est Jésus. Donc, frères et sœurs, chers amis, refusons tout cadeau qui ne serait pas de Dieu. Amen. Peut-être, j'arrive bientôt à la fin, peut-être que tu n'as pas trop envie, t'hésites à recevoir le cadeau parce que tu as peur d'être redevable. Tu réalises le prix que Jésus a payé peut-être, complètement ou partiellement, ou simplement parce que tu as peur d'être redevable et donc d'avoir une dette envers Jésus. Premièrement, j'aimerais te dire deux choses. Premièrement, oui, le prix a été énorme. C'est le prix du sang de Jésus. incalculable. C'est un prix incalculable. Le prix du sang de Jésus, le Fils unique de Dieu, qui s'est humilié, comme jamais personne ne s'est humilié, qui a tout subi, qui a obéi jusqu'à la mort, et la Bible dit jusqu'à la mort de la croix. C'est une mort particulière, particulièrement douloureuse, et pas seulement humainement parlant, mais je vais dire spirituellement parlant. Mais tu n'as rien à faire pour recevoir ce cadeau. Tu n'as rien à faire pour recevoir ce cadeau, si c'est de l'accepter par la foi en demandant pardon pour tes péchés. Pardon pour tes péchés. Oh, que le Saint-Esprit nous convainc encore de nos péchés. Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, si j'ai blessé quelqu'un, même involontairement, révèle-moi cela et donne-moi de demander pardon à cette personne. Il y a une chose que j'ai eu mon père au téléphone il y a 2 ou 3 jours de cela. Il faut que je le fasse. J'ai oublié de le faire au travers de l'appel parce qu'on a parlé d'autre chose. Et Dieu m'a interpellé sur quelque chose où je dois encore lui demander pardon. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents aimants. Et vers l'âge de 30 ans, mes parents se sont séparés. C'était complètement inattendu. Mes parents se sont séparés. Ils ont demandé pardon à Dieu, Dieu a fait grâce, ils ont refait leur vie et ils servent de nouveau le Seigneur. Après un temps, évidemment. Un temps de demande de pardon, un temps de reconstruction, un temps de guérison. Et parfois, nous, on a des standards au-dessus de Dieu pour accorder le pardon aux gens. Et lorsque mon père me conseillait, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit m'a interpellé il y a quelques temps de cela, lorsque mon père me donnait après ça, parce que j'ai rencontré, je me suis marié 4 ou 5 ans après la divorce de mes parents, et lorsque mon père me donnait des conseils pour mon couple, j'avais du mal à recevoir. J'avais du mal à l'entendre. J'aime mon père, je discute avec lui sans aucun problème. Mais lorsqu'il me donnait des conseils pour mon couple, pour mon mariage, j'avais du mal. J'écoutais, ça rentrait là, ça me sentait pas. Et je sens que le Saint-Esprit me demande de lui demander pardon pour cela. De l'avoir jugé, de n'avoir pas accepté ses conseils en me rappelant ses erreurs du passé. Dieu lui a demandé pardon, Dieu lui a pardonné, clairement, je le vois, Dieu l'a clairement pardonné. Je ne peux pas retenir, rappeler une faute que Dieu a oubliée. Donc je dois le rappeler pour lui demander pardon pour cela. Deuxième chose par rapport au fait d'être redevable, etc. Il y a quand même peut-être une petite dette que l'on a envers Dieu, envers Jésus. Elle est simple. C'est que j'offre ma vie en retour. Que je ne vis plus comme avant. Que je ne vis plus, et j'irai plus loin, que je ne vis plus comme hier. Chaque jour, ma vie doit être d'autant plus courte. Parce que lui a tout donné. Est-ce que moi, du coup, je vais tout garder? Je vais choisir de vivre ma vie comme bon me semble. Même si les gens disent du bien de moi, c'est pas le but que les gens disent du bien de moi, même si je dois me raconter moi ça. Le but, c'est qu'au travers de ma vie, les gens rencontrent Jésus. Qu'au travers de ma vie, les gens soient transformés. Parce que je relâche la vie de Jésus, qui change, qui bouscule, qui transforme. Ma dette envers Dieu, c'est que je partage la nouvelle de l'Évangile à toute la création. Ça ne veut pas dire que je dois aller partout dans le monde. Ça peut arriver, hein, ça peut être un appel aussi. Je ne pourrais pas avoir les milliards de personnes d'être vivant sur Terre, je ne pourrais pas. Par contre, au quotidien, vers qui Dieu veut m'envoyer, que je puisse y aller. Si aujourd'hui Dieu me dit, va voir ton voisin, à qui peut-être je n'ai jamais parlé, que je puisse le faire. Parce que cette personne a quelque chose à recevoir de la part de Dieu. Mais Dieu veut passer par moi. Si demain Dieu me dit, va dans tel pays, j'ai besoin que tu bénisses tel peuple, je te prie à le faire. Si demain Dieu me dit d'aller voir un président, je dois être prêt à le faire. Si demain Dieu me dit d'aller dans une maison de drogués, je dois être prêt à le faire. Que ce soit connu ou pas connu, que je reçoive une reconnaissance ou pas, que je reçoive une reconnaissance ou pas. Moi, je prie personnellement, Seigneur, aide-moi à ne jamais chercher de reconnaissance. Aide-moi à ne jamais chercher encore moins de l'admiration des gens. Aide-moi à faire ce que tu demandes de faire, Seigneur. Aide-moi à le faire humblement comme toi tu l'as fait. Même Jésus, lorsqu'il accomplissait des miracles, il disait, n'en parle à personne. N'en parle à personne. Je fais la volonté de mon Père, n'en parle à personne. Que ma vie serve premièrement à ce que tous entendent la bonne nouvelle de l'Évangile et que les gens reçoivent aussi la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Je terminerai en disant quelques mots sur la vie éternelle. La vie éternelle. Jean 17, verset 3, c'est Jésus qui fait une prière. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus associe la vie éternelle à la connaissance de Dieu. Si tu veux vivre pleinement, profiter pleinement de la vie éternelle que tu as en Jésus, tu dois mieux connaître le Père et mieux connaître le Fils au travers du Saint-Esprit. Si tu veux comprendre clairement, complètement et profiter au maximum de la vie éternelle en Jésus-Christ, tu dois mieux connaître qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils au travers de la personne du Saint-Esprit. Amen. Nous devons connaître et pas connaître comme si, oh oui, je connais cette personne. Non. Et plus qu'une connaissance intellectuelle. J'ai rencontré une dame lorsque justement j'étais en Israël, elle était docteur en histoire d'Israël. Elle connaît l'Ancien Testament, c'est un peu d'origine juive. Elle connaît l'Ancien Testament extrêmement bien. Et pourtant, elle n'a jamais accepté Jésus. Elle n'a jamais, elle ne croit pas, elle ne suit même pas la religion juive. Elle, c'est que intellectuelle. Elle aime l'histoire de son peuple. Elle aime l'histoire de son pays. Elle aime ce que raconte l'Ancien Testament. Mais ça n'a jamais traversé son cœur, ça n'a jamais pénétré son cœur, ça n'a jamais ancré, ça ne s'est jamais ancré dans son cœur. Quel drame, tu as un cadeau, tu n'en profites pas, tu le laisses sur l'étagère, tu le laisses peut-être même emballé. Si tu as accepté la vie éternelle, tu dois déballer le cadeau, tu dois l'utiliser quotidiennement, et toujours plus, c'est un cadeau qui, plus tu l'utilises, plus il se développe, plus il est beau. C'est merveilleux, non? Il est impossible de connaître Dieu sans passer par le Fils aussi. C'est par le Fils que le Père se révèle. Encore une fois, pas de connaissance intellectuelle, mais une relation intime avec Dieu, le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Que la Bible, lorsque tu lis la Bible, ça te parle, ça te travaille. Et si elle ne te parle pas, continue. Il y en a qui disent, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, quand il lit la parole de Dieu, et pendant le printemps, le matin, il la lit jusqu'à ce que Dieu lui parle concrètement, personnellement. Tant qu'il n'y a rien qui l'interpelle concrètement, il continue de lire, jusqu'à ce que Dieu veut parler quotidiennement. Dieu veut te parler quotidiennement. Quotidiennement. Amen. Et la deuxième chose, et je termine là-dessus. Avoir Jésus, c'est avoir la vie éternelle, c'est avoir sa vie, la puissance de sa vie. Et dire, Jésus dit de lui-même qu'il est la résurrection et la vie. Et ça, cette puissance de vie, cette vie qui jaillit, tu peux avoir en toi. Et c'est là que notre vie prend tout son sens. Jean, chapitre 1, verset 4. En elle, il parle de la parole faite chair, donc il fait référence à Jésus. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Et dans notre passage, Jésus dira que vous êtes la lumière du monde. Lorsque la vie, si tu acceptais la vie de Jésus, en acceptant la vie éternelle en Jésus, tu deviens une lumière. Ce n'est plus les ténèbres qui t'accablent, ce n'est plus les ténèbres qui prennent le dessus sur toi, c'est toi qui dois briller. Tu brilles pour ta propre vie, pour ne pas être abattu, mais tu brilles aussi où que ton pied, peu importe le pied, le sol que ton pied a foulé, relâche la vie de Jésus, relâche la lumière de Jésus, afin que les gens qui ne sont loin de Jésus, afin que ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être libérés de mauvais esprits, ceux qui ont besoin de lumière, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont morts passent de la mort à la vie. Relâche la lumière de Jésus. Relâche la vie de Jésus. Vous étiez déjà arrivé d'être avec quelqu'un, alors que la personne entre dans la pièce, vous discutez avec, vous sentez la tension, vous sentez le stress, vous sentez que cette personne ne va pas bien. Ça vous est déjà arrivé? L'enfant de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut que l'enfant de Dieu n'a aucun problème, hein, qu'il doit cacher ses problèmes, c'est pas ce que je dis. Ok? Mais notre but, en tant qu'enfant de Dieu, c'est lorsqu'on parle à quelqu'un, la personne ne ressent pas le stress, elle ne ressent pas la pression, elle ne ressent pas quelque chose de négatif. Mais si quelque chose résonne en moi lorsque cette personne me parle, quelque chose est différent lorsque cette personne est dans la pièce. Quelque chose de différent lorsque cette personne est autour de moi. L'atmosphère n'est pas la même. Quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que vous relâchez. Vous êtes conscient que Jésus vit en vous et vous priez pour que ça relâche le travail de vous. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Allez, nous relâchons. J'aimerais tout premièrement peut-être interroger quelqu'un dans cette pièce qui n'a jamais accepté ce cadeau. Peut-être que tu ne sais même pas que c'était un cadeau qui t'était proposé, qui était à ta disposition. Et ce matin, tu entends parler de ce cadeau et ce cadeau est aussi pour toi, qui que tu sois, qu'importe ton passé, qu'importe. Si tu voulais recevoir ce cadeau ce matin, si tu voulais tendre ta main pour recevoir, le saisir pour ta propre vie, je vais te demander une simple chose, alors que les yeux sont fermés, il est question de toi devant le Dieu céleste. Il te regarde, comme l'a dit le chant tout à l'heure, comme le frère l'a relevé dans le psaume qu'il a lu. Dieu s'abaisse. Il abaisse son regard et il regarde. Et il te regarde. Il abaisse son regard sur toi parce qu'il t'aime. Lève ta main là où tu es. Si tu veux recevoir ce cadeau, lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Si tu voulais accepter Jésus et recevoir cette vie, la vie éternelle. N'attends pas demain. Je crois que le Saint-Esprit est venu parler à ton cœur. Et je crois que Dieu est venu frapper à la porte de ton cœur et voudrait y entrer et faire sa demeure. N'aie pas peur, n'aie pas crainte, il ne veut que ton bien. Veux-tu le recevoir? Lève simplement, rapidement ta main. Est-ce que quelqu'un veut le recevoir ce matin? Est-ce que tu veux le recevoir ce matin? Lève simplement ta main. Et je te remettrai humblement, mais concrètement, entre les mains de Dieu, pour qu'il l'ait dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait l'accepter ce matin? Je répète une dernière fois. Lève simplement, rapidement ta main, afin que je puisse la voir. Je vais m'adresser à ceux qui ont déjà accepté Jésus, qui ont déjà accepté la vie éternelle en Jésus, et qui voudraient expérimenter plus de cette vie, en profiter plus et en partager plus. C'est donc là que j'aimerais aussi t'accompagner dans la prière, afin que tu expérimentes plus de cette vie dès aujourd'hui. Peu importe où tu en es avec Jésus. Si ton cœur lève ta main aussi, j'aimerais prier pour toi. Alléluia. 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 Une fois que vous avez levé vos mains, vous pouvez la baisser. Alléluia, Jésus. Je me prie pour vous. Chacun d'entre Seigneur, je te bénis, mon Dieu, pour mes frères et ceux qui ont levé leurs mains. Je te bénis, mon Dieu, pour ce que tu as choisi de faire dans leur vie, mon Dieu. Et aujourd'hui, ils veulent dire oui, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux profiter plus de cette vie, mon, que tu m'as offerte. Je t'en suis grandement reconnaissant pour cette vie que j'ai en toi, Jésus. Et je veux en profiter plus et je veux le partager plus. Je veux que là où tu me demandes d'être, Seigneur Jésus, ta lumière brille. Je veux que là où tu me demandes d'être au quotidien, ta vie jaillisse, Seigneur Jésus. Parce que je ne veux pas que le monde se perde. Avant, lorsque j'étais loin de toi, j'étais perdu, Seigneur Jésus. Mais tu m'as trouvé. Et je crois que dans mon entourage, Seigneur Jésus, je crois que dans les gens que tu me donnes de rencontrer, mon Dieu, il y a des gens aussi, Seigneur Jésus, qui ont besoin d'être sauvés. Il y a des gens que tu veux rencontrer. Il y a des gens que tu veux délivrer. Il y a des gens que tu veux guérir. Seigneur, utilise-moi. 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 Que ton Saint-Esprit me remplisse. Que je sois revêtu de ta puissance. Que je sois rempli de ta vie jusqu'à en déborder. En déborder. En déborder, frères et sœurs, déborder de la vie de Jésus. C'est ce que je veux relâcher sur votre vie. Que vous débordez de la vie de Jésus. Que votre vie soit différente encore aujourd'hui. Que demain, lorsque vous allez vous réveiller, vous ayez des objectifs, vous ayez des fardeaux sur votre cœur, vous ayez des désirs que Dieu va mettre sur votre cœur pour aller à tel endroit, pour aller à telle personne. Que demain, lorsque vous allez vous réveiller, vous n'allez plus subir votre vie. Vous n'allez plus subir cette difficulté qui sont sur vos vies aujourd'hui. Mais parce que vous êtes enfant de Dieu, vous allez profiter d'autant plus de votre statut d'enfant de Dieu et de l'héritage que vous avez en Jésus. Que les fardeaux qui sont sur vos épaules soient ôtés maintenant dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu vous inonde. Que la paix de Dieu vous inonde. Et que vous soyez vous-même des artisans de paix. Des artisans de paix dans votre église. Des artisans de paix dans votre communauté, des artisans de paix dans votre famille, des artisans de paix dans votre lieu de travail, des artisans de paix dans ce monde. Que Dieu, dans ce monde où il y a des multitudes encore qui ont besoin, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. chacun de vous proposer de bénir le Seigneur ensemble, de bénir son nom ensemble. Puis je laisserai la place. Et à la fin du culte, si certaines personnes voudraient venir me voir, j'aimerais aussi te prier pour si quelqu'un est malade, si quelqu'un voudrait partager quelque chose, aurait besoin de la prière. J'aimerais prier pour vous aussi. J'aimerais prier pour vous aussi. Seigneur, je veux te bénir en cet instant. Je veux te bénir pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour ces instants que nous vivons dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour cette église, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais au travers d'elle. Et merci encore plus pour ce que tu vas faire demain au travers d'elle. Je te remercie, mon Dieu, pour les gens qui te servent dans cette église. Je te remercie, mon Dieu, pour le groupe pastoral. Je te remercie, mon Dieu, pour le conseil de l'église, mon Dieu. Et je te prie, mon Dieu, de les renouveler puissamment, puissamment, puissamment. Je te prie encore pour plus d'unité. Je te prie, mon Dieu, pour envoyer encore, de faire lever des serviteurs, des servants dans cette église, Seigneur Jésus. Je te prie de bénir encore cette église, mon Dieu, beaucoup plus qu'hier. J'ose te demander plus grande bénédiction pour cette église, mon Dieu, et que cette église rayonne dans cette ville de Saint-Louis et ses alentours, Seigneur Jésus. Comme le frère l'a mentionné, c'est une plaque tournante, Seigneur Jésus. Oh, que personne ne passe dans ce carrefour sans t'avoir rencontré, Seigneur Jésus. Nous prions pour des personnes de toute nationalité, Seigneur Jésus, soient impactées par le message de l'Évangile, passent de la mort à la vie, qu'ils changent de vie, Seigneur Jésus. Qu'ils acceptent toi, mon Dieu, Jésus, le seul Seigneur, le seul Sauveur, car tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre par la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia, Jésus.